de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien. Je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques éléments importants à informer, entre autres. L'ambassade d'Indonésie à Dakar fait la promotion des motos électriques fabriquées dans le pays au Sénégal. Singapour trouve la variante Delta la plus courante parmi les cas locaux de COVID-19. L'incendie de l'hôpital de référence COVID en Russie fait 3 morts. Le Pakistan a donné 10 millions de doses de vaccin COVID-19 à ses citoyens. L'Indonésie accorde 1 400 bouteilles d'oxygène à l'Inde. Le président Joko Widodo espère que les trains LRT fabriqués par l'Indonésie pourront être exportés. L'Indonésie et la France renforcent la coopération maritime pour le développement économique. Bon, cher Jolitar, voici les nouvelles incomplètes. L'ambassade d'Indonésie à Dakar fait la promotion des motos électriques fabriquées dans le pays au Sénégal. L'ambassade d'Indonésie à Dakar fait la promotion des moteurs électriques produits par le pays dans la ville de Thiès, au Sénégal, dans le but de pénétrer les marchés non traditionnels d'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre de la diplomatie économique. Dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Dakar, a reçue à Jakarta, mercredi, a-t-on déclaré la promotion du moteur électrique Gesit, produit par Wika Industry Manufacture SA au Sénégal, vise également à introduire davantage l'Indonésie dans le pays et comme une forme de soutien au programme Go Global de l'entreprise d'État BUMN. Lors de l'événement promotionnel, l'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal, Didin Wahyudin, a déclaré que l'Indonésie a également invité les pays amis, dont le Sénégal, à utiliser des technologies respectueuses de l'environnement, notamment en utilisant la motogesit, née du rêve des produits de moto respectueux de l'environnement pour les consommateurs. Le peuple indonésien et le monde, en outre, l'Indonésie en tant que membre du G20 s'est avéré capable de produire d'autres produits de haute technologie, tels que l'avion CN-235 produit par Dirgantara Indonesia SA, qui a été acheté et utilisé par l'armée de l'air sénégalaise autant que 3 unités. Singapour trouve la variante Delta la plus courante parmi les cas locaux de COVID-19. Le gouvernement de Singapour a constaté que la variante COVID-19 Delta était la plus courante parmi les cas locaux de variante préoccupante COV. Selon les données du ministère de la Santé, dans un communiqué publié mercredi au 31 mai, il y avait 449 cas locaux de COVID-19, dont 428 étaient des variantes Delta initialement détectées en Inde et 9 variantes Beta initialement apparues en Afrique du Sud. Les autorités singapouriennes ont signalé le premier cas de la variante Delta début mai. La variante Delta a fait craindre un pic catastrophique dans d'autres pays où elle se trouve comme le Royaume-Uni, retardant potentiellement les plans de suppression des restrictions COVID post-vaccination dans de nombreux domaines. Singapour a effectué le séquençage du génome viral pour tous les cas confirmés de COVID-19. Contrairement à certains pays qui séquencent généralement une plus petite proportion de leurs infections. Le programme de vaccination de masse de Singapour se déroule sans heurts. La cité-État a signalé un total de plus de 62 000 cas de COVID-19 locaux et importés avec 34 décès. L'incendie de l'hôpital de référence COVID-19 en Russie fait 3 morts. Un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital de référence COVID-19 en Russie a tué 3 personnes mercredi, ont annoncé les autorités. Un responsable a affirmé qu'un ventilateur était la cause suspectée. Depuis le début de la pandémie, la Russie a signalé un certain nombre d'incendies dans les soins intensifs qui, selon les médecins, ont été causés par un dysfonctionnement du ventilateur utilisé pour traiter les patients graves de COVID-19. L'incendie s'est déclaré aux premières heures de mercredi dans l'un des hôpitaux de la ville de Ryazan, à environ 180 km de Moscou, dans un service pour patients atteints de COVID-19. Le gouverneur local Nikolai Lyubimov a déclaré aux chaînes de télévision qu'un ventilateur du service avait surchauffé puis avait pris feu. L'agence de presse Interfax a rapporté que les infirmières ont essayé d'éteindre l'incendie, mais malheureusement en vain, et certaines d'entre elles ont subi de graves brûlures. Le Pakistan a donné 10 millions de doses de vaccin COVID-19 à ses citoyens. Le gouvernement pakistanais a affirmé que l'administration de 10 millions de doses du vaccin COVID-19 était une étape importante vers la réalisation de son objectif de vacciner 70 millions de ses citoyens d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré le ministre chargé des opérations de gestion de COVID-19 Asad Umar à Islamabad mercredi. Le Pakistan fait face à des doutes sur la vaccination initiale et à des pénuries d'approvisionnement, mais a commencé à lancer une campagne de vaccination de masse à la fin du mois dernier. Le pays appuie fortement sur son allié, la Chine, pour l'approvisionnement en vaccins avec 3 des 6 vaccins approuvés provenant des fabricants chinois tels que Sinopharm, Sinovac et CanSinoBio. Les infections à coronavirus ont augmenté ces derniers mois, mais ont commencé à diminuer. Le Pakistan a enregistré un total de 936 131 cas et 21 453 décès. L'Indonésie accorde 1400 bouteilles d'oxygène à l'Inde. Le gouvernement indonésien a fourni une aide humanitaire de 1400 bouteilles d'oxygène au gouvernement indien en guise de solidarité et de soutien à l'Inde dans la gestion de la flambée des cas de COVID-19. L'aide sous forme de bouteilles d'oxygène a été remise par la Croix-Rouge indienne mardi 8 juin au port de Navasheva. C'est selon une déclaration écrite du consulat général d'Indonésie, KJRI, Mumbai, reçue par Antara Jakarta mercredi. L'arrivée de 5 containers contenant des bouteilles d'oxygène achevées, la remise de 200 unités de concentrateurs d'oxygène de l'Indonésie au gouvernement indien le 12 mai. L'Indonésie enverra également jusqu'à 2000 bouteilles d'oxygène qui devraient arriver au port de Navasheva vers la fin juin 2021. Le consul général indonésien à Mumbai, Aguspe Sabtono, s'est félicité de l'arrivée des bouteilles d'oxygène et les a ensuite remis aux responsables indiens de la Croix-Rouge pour d'autres modalités de distribution. Le président Joko Widodo espère que les trains LRT fabriqués par l'Indonésie pourront être exportés. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, espère que le train léger Light Rail Transit produit par l'entreprise d'État Inka SA pourra être exporté vers d'autres pays. Pour d'autres pays, l'Indonésie a exporté des trains au Bangladesh, aux Philippines et on espère que le LRT sera aussi comme ça. Le président Joko Widodo a déclaré cela lors de sa visite à la station LRT Tamanmini Indonesia Indah et à la station Harjamukti Cibubur à Jakarta mercredi. Le métro léger sur rail que le président Joko Widodo a testé mercredi matin 9 juin est le LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Jabodebek qui devrait fonctionner à la mi-2021. Le train LRT est produit par Inka SA, tandis que la construction LRT est en cours de construction par Adhikarya SA. Le président a déclaré que l'expérience de la construction des bâtiments et des trains LRT est très nécessaire pour l'industrie en Indonésie. Cela sera utile lorsque les TLR fabriqués dans le pays sont déjà exportés vers d'autres pays. La technologie de construction fabriquée par des entreprises indonésiennes sera également nécessaire aux pays importateurs de LRT d'Indonésie. L'Indonésie et la France renforcent la coopération maritime pour le développement économique. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Mahendra Siregar, a reçu la visite de la ministre française de la mer, Annick Girardin, à Jakarta mardi, pour discuter des mesures concrètes pour réaliser le potentiel d'une coopération accrue entre les deux pays, en particulier dans le domaine maritime. L'Indonésie est le premier pays non européen visité par la ministre Girardin depuis sa prise de fonction en juillet 2020. Dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères mercredi, le vice-ministre des Affaires étrangères Mahendra a souligné qu'il existe un grand potentiel de coopération dans le domaine maritime, en particulier l'utilisation et la gestion durable du capital naturel à la fois sur terre et en mer pour soutenir la croissance de l'économie et la prospérité de la communauté. En tant que partenaire stratégique de l'Indonésie, la France espère que les deux pays se soutiendront pour exprimer des solutions aux défis mondiaux dans les forums internationaux. La ministre Girardin a exprimé son appréciation pour le soutien de l'Indonésie à l'élection de la France comme partenaire au développement de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et en fort le titre. Le gouvernement est prêt à réviser la loi sur l'information et les transactions électroniques. Après que la discussion de la loi sur l'information et les transactions électroniques, ITE, ait été reportée, le gouvernement était enfin prêt à rediscuter de la loi avec le Parlement. L'émergence de la loi ITE a été critiquée par de nombreuses parties, car il y a plusieurs articles qui ont tendance à avoir des interprétations multiples, de sorte qu'ils entravent la liberté démocratique. Selon le plan, la révision de la loi ITE sera inscrite dans le programme législatif national Prolegnas prioritaire en 2021 à travers un mécanisme d'évaluation à mi-année par le Parlement. Lors d'une réunion avec la Commission 3 du Parlement mercredi, le ministre du Droit et des Droits de l'Homme, Yasona Lawli, a déclaré que la révision de la loi ITE proposée par le gouvernement vise à surmonter le problème des interprétations multiples dans cette loi. Il a également déclaré que la révision de la loi ITE réduirait au minimum le nombre de cas liés à la loi ITE qui seraient portés devant le domaine de l'application de la loi, car les dispositions dans cette loi seraient rendues plus strictes. Néanmoins, selon le ministre Lawli, la loi ITE est toujours nécessaire pour prévenir les effets néfastes liés à l'utilisation d'Internet. Pendant ce temps, le ministre coordinateur de la politique des droits et des droits humains, Mahfoud MD, a souligné que la révision limitée de la loi ITE a été effectuée sur plusieurs articles considérés comme controversés et déjà conformes aux directives du président. Selon le ministre Mahfoud MD, la loi ITE ne sera pas abolie mais seulement révisée avant que les articles en code source soient perdus. Auparavant, le président Joko Widodo avait suggéré de réviser la loi sur l'information et les transactions électroniques ITE suite aux nombreuses incriminations liées aux multiples interprétations dans l'application des articles de loi ITE. Lors de la réunion des dirigeants de TNI Polri en février 2021, le président Joko Widodo a déclaré que si la loi ITE ne pouvait pas apporter un sentiment de justice, il demanderait au Parlement de la réviser. En outre, il a également demandé au chef de la police nationale et ses rangs d'être plus sélectif dans la réponse et l'acceptation des signalements de violation de la loi ITE. En effet, faire la loi vise à réglementer que la vie de l'État et de la société se passe bien avec une pleine justice. Surtout à l'ère numérique d'aujourd'hui où n'importe qui peut accéder à un espace et à un temps vaste et illimité, à l'ère numérique d'aujourd'hui, presque tout le monde peut s'exprimer en utilisant divers formats et formes à sa guise. Basé sur la démocratie, à l'ère numérique d'aujourd'hui, la liberté d'expression est plus facile et plus accessible, distribuée, vue et regardée immédiatement par n'importe qui. Mais s'il n'y a aucun signe, la situation sera chaotique car chacun fera ce qu'il voudra. Sans signe clair, il y aura beaucoup d'utilisation abusive des moyens numériques avec certains objectifs pour des intérêts personnels ou de groupe. Cependant, avec l'existence de la loi, elle maintiendra, guidera et réglementera et fournira des limites à chacun pour s'exprimer. Tout vise à l'ordre, au respect mutuel selon les normes et l'éthique de la vie et de l'État. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 10 juin 1947. Le traité d'amitié entre la République de l'Indonésie et l'Égypte a été signé au Caire. Le jeune ministre des Affaires étrangères, Haji Agus Salim, a dirigé une mission diplomatique en Égypte pour recueillir le soutien international en faveur de l'indépendance de l'Indonésie. La visite a abouti au traité d'amitié, de politique et de commerce entre l'Indonésie et l'Égypte qui a été signé le 10 juin 1947. Avec l'accord d'amitié, l'Égypte est alors devenue le seul pays à reconnaître la souveraineté de l'Indonésie de facto et de jure. Cet accord était la première victoire de la diplomatie d'Indonésie à l'étranger, ainsi que l'échec des Pays-Bas à empêcher la reconnaissance de la souveraineté indonésienne à l'étranger. L'événement suivant a eu lieu en 1967, la guerre des six jours se termine. La guerre des six jours ou la guerre israélo-arabe de 1967 était une guerre entre Israël et une combinaison des trois pays arabes, à savoir l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Les trois ont également reçu une aide active de l'Irak, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, du Soudan et de l'Algérie. La guerre a duré 132 heures 30 minutes ou moins de 6 jours. Seulement sur le front syrien, la guerre a duré 6 jours entiers. À la fin de la guerre, Israël a capturé Jérusalem-Est, la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan. Le résultat de cette guerre affecte encore la géopolitique de la région du Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 juin 2009, l'inauguration du pont de Suramadu entre l'île de Madura et l'île de Java. Le pont national de Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura, reliant l'île de Java et l'île de Madura. Avec une longueur de 5 438 mètres, ce pont est le plus long pont d'Indonésie aujourd'hui. La construction initiale de ce pont a été inaugurée par la présidente Megawati Soekarnoputri le 20 août 2003 et l'ouverture a été inaugurée par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. La construction de ce pont vise à accélérer le développement à l'île de Madura, couvrant l'infrastructure et l'économie de Madura. Parce qu'il relie deux îles, la technologie de construction du pont de Suramadu est conçue pour permettre aux navires de passer sous le pont. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Saja ini terbaik untuknya. Ya dia, kau harus bisa seperti aku.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejuritak, bonsoir. Voici mon Indonésie et encore le titre. L'Indonésie s'efforce toujours d'améliorer l'écosystème marin. La plupart des dommages des écosystèmes marins sont causés par les activités humaines. D'après les données, ce sont des millions de tonnes de déchets ménagers qui polluent les mers indonésiennes chaque année, principalement du plastique. Enfin, l'existence de ces déchets entravera la survie de la vie marine. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyutenggono, dans sa déclaration écrite en commémoration de la Journée mondiale des océans, mardi 8 juin 2021. Le ministre Sakti Wahyutenggono a également averti qu'outre les ordures, les dommages des récifs coralliens et des mangroves constituent également un problème distinct pour la santé marine de l'Indonésie. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche a expliqué que le gouvernement, à travers d'autres ministères, agences et institutions gouvernementales, a encouragé un certain nombre de programmes de restauration. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, lui-même, par exemple, à travers le programme national de relance économique en 2020, a réussi à restaurer divers types de structures de récifs coralliens dans plusieurs zones côtières de l'île de Bali, à savoir Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan et Buleleng qui couvrent une superficie d'environ 74,3 hectares. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, à travers la Direction générale de la gestion de l'espace marin, tout au long de l'année dernière, a également planté près de 3 millions de troncs de mangrove d'une superficie de 448,18 hectares. Cette superficie dépasse l'objectif fixé de 200 hectares. Dans l'ensemble, le ministère a effectué la restauration de mangroves d'environ 3 000 hectares. Pendant ce temps, au niveau international, le gouvernement indonésien participe activement au forum et au dialogue lié à la santé marine. Par exemple, en 2009, l'Indonésie a entrepris de maintenir et d'utiliser les zones marines et les récifs coralliens dans la zone du triangle des récifs coralliens de manière durable. En cette commémoration de la Journée mondiale des océans, le ministre Sakti Wahyutonggono a conseillé à l'Assemblée de la communauté de participer également au maintien de la santé marine en encourageant la restauration des récifs coralliens et des mangroves dans diverses zones. Le peuple indonésien doit également éliminer la mauvaise habitude de jeter des ordures partout. Le ministre Tonggono a rappelé que la Journée mondiale des océans, le 8 juin, est proche de la Journée du triangle de corail, le 9 juin. La proximité des deux commémorations, selon Tonggono, montre que la mer et les récifs coralliens doivent être maintenus et conservés simultanément. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cepat reda, tak berkedip. kepadamu, aku tenggelam bersama hujan yang berlabuh di tepi ruang tak
Change de guitare, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers de guitare, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. Nous continuons notre émission avec le programme Le Magazine Culturel. Pour ce soir, nous vous présentons le vêtement traditionnel de Tanah Bumbu de Kalimantan du Sud. Chers auditeurs, le 1er juin, le président Joko Widodo est devenu l'inspecteur de la cérémonie de commémoration de l'anniversaire de Pancasila. La cérémonie a eu lieu dans la cour du bâtiment Pancasila du ministère des Affaires étrangères dans le centre de Jakarta. Jokowi, qui a agi en tant qu'inspecteur de la cérémonie, a assisté virtuellement à travers le palais présidentiel de Bogor. Lors de la cérémonie de commémoration de l'anniversaire de Pancasila, le président Jokowi portait des vêtements noirs et les a mélangés et assortis à un chapeau à motif vert distinctif et au tissu. C'est un vêtement traditionnel de Tanah Bumbu. Le caractéristique du vêtement traditionnel de Tanah Bumbu, Bugis Pagatan, est l'utilisation de tissu tissé Pagatan. Ce tissu est utilisé comme sarong et aussi comme laung ou le couvre-chef. La signification du sarong utilisé dans ce vêtement traditionnel est un symbole d'humain qualifié et travailleur. Laung symbolise l'autorité et la puissance. Tandis que l'intérieur de la chemise s'appelle Teluk Balana, qui est un symbole des vêtements religieux de l'archipel. Le pantalon et la ceinture portée ont aussi un sens. Le pantalon symbolise la fidélité et une ceinture en tissu représente un symbole de simplicité. En complètement, il y a une fleur ou une fleur dorée sur la poitrine gauche comme symbole d'un chef sage. Chers auditeurs, c'était le magazine culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tuhan, kirim pesan.
jadi gemeteran saat ku memandangmu. Oh, tapi ku tak ketemu kamu. Pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku untuknya.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée « Le gouvernement central construira le pont de verre dans la région du parc national Bromo Tengger Semeru ». Le pont pour les touristes sera construit par la Direction générale Bina Marga du ministère des Travaux publics et du Logement public. Le développement vise à faire du parc national Bromo Tengger Semeru un lieu touristique différent des autres. Le pont de verre devrait être un nouveau lieu touristique alternatif pour profiter du paysage naturel du mont Bromo et du mont Semeru. L'emplacement de la construction du pont de verre est en dehors de la zone du parc national Bromo Tengger Semeru, mais il traverse la forêt qui est incluse dans la zone. L'emplacement du pont est au Seruni Poang, à Cemoro Lawang, le village de Ngadisari, la résidence de Probolinggo. Seruni Poang est le centre le plus parfait pour profiter de la beauté du mont Bromo et voir le lever et le coucher du soleil. Le pont traversera le ravin dans la zone du parc national Bromo Tengger Semeru. Le pont de verre peut être considéré comme le seul à Java oriental, un nouvel endroit où les touristes peuvent profiter de l'exotisme du mont Bromo, du mont Batok, du mont Semeru et de la jungle du parc national Bromo Tengger Semeru dans Aude. Du point de vue de la conservation, le pont de verre est considéré comme inoffensif. Parce que les touristes peuvent profiter du paysage sans contact direct avec l'écosystème qu'il contient. Depuis le pont, les visiteurs peuvent également voir la grotte qui a été purifiée par la communauté locale. Jérémy, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
You to the rescue. How did you do it? I'm a deadlock. Gotta figure it out. I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know. You don't need to show. And just keep them words flow.
Oh, love, oh, love. That's sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love. That's sweet talk. No one can get enough of that sweet talk.
You know me.
Oh, love, oh, love. That's sweet talk. You give me some of that. Some of that.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Vina Panduwinata. Chers amis, Surat Cinta est l'un des singles populaires de Vina Panduwinata. Cette chanson a été composée par Odi Agam et cette chanson est sortie en 1986 sur l'album intitulé Cium Pipiku. Raconte les sentiments de quelqu'un qui reçoit une lettre d'amour. À cette époque, bien sûr, la technologie n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, où l'envoi de messages pouvait se faire via une application mobile. Ne soyez donc pas surpris si la chanson Surat Cinta est un support couramment utilisé pour donner une expression d'amour à quelqu'un. Bon, chers auditeurs, voici Vina Panduwinata, chantée une chanson intitulée Surat Cinta. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.